Chapitre 3. Marichette n'avait que 15 ans. Paulin en avait 22. Elle était jolie. Depuis son arrivée à Saint-Maclou, le vent de la mer lui avait rendu la fraîcheur de la jeunesse, le sang coulait rose et vif sous le velouté de ses joues, ses paupières s'étaient raffermies, ses lèvres avaient rougi, ce n'était plus la pauvre fille pâlie et amaigrie par la vie renfermée, épuisée par les fatigues endurées au chevet de sa mère, qui avait quitté Paris à bout de force et de courage. Si son gracieux visage avait conservé son expression mélancolique, de même que son regard voilé, c'était un charme en elle et non un défaut, car en voyant sa tête penchée en avant, ses grands yeux profonds, sa bouche au coin légèrement abaissée et ses narines palpitantes, on n'eût pas compris qu'elle eût l'air enjouée. Lui, il était ce qu'on appelle un beau garçon. Grand, bien bâti, bien découplé, élégant dans sa démarche et dans sa tenue, mais d'une élégance naturelle sans pose et sans affectation, la tête fine encadrée d'une barbe naissante blonde et frisée, la physionomie affable, le regard doux, l'air discret et caressant des fils qui ont vécu dans les jupes de leur mère. Elle était tendre, de tempérament sentimental, facile aux rêveries et aux émotions. Lui, il était de complexion amoureuse, et si, comme Victor, il ne racontait point à chaque instant des histoires de femmes, c'était par sincérité, par horreur du mensonge, par respect de soi. Mais ces histoires, qui emplissaient la bouche de son camarade, emplissaient sa tête et son cœur, et il les vivait en imagination, en attendant. Combien de points de contact entre eux et d'attraction ? De plus, ils avaient un secret partagé, une association. Que de choses à se dire en cachette, mais aussi que de regards échangés qui ne parlaient pas seulement de psit. Sans doute, dans son premier coup d'œil, Marichette ne mettait qu'une interrogation, comme dans le sien, Paulin ne mettait qu'une réponse. « Comment va-t-il »« Il va bien. » Mais il ne s'en tenait pas à cet unique coup d'œil. Bien des fois, dans la journée, elle le regardait en souriant, comme lui-même, bien des fois aussi, il la regardait avec le même sourire. Et ce n'était plus de psit qu'il était question. Ils se regardaient parce qu'ils avaient plaisir à se regarder et se souriaient sans rien se dire de précis pour se sourire. Cela avait même amené un changement dans les dispositions du bureau de Paulin et aussi dans celles du bureau de Belloc lui-même. De la table à dessin sur laquelle il travaillait habituellement, Paulin ne pouvait voir Marichette, même lorsque la porte des deux bureaux était ouverte. Pour l'apercevoir, il était obligé d'abandonner son travail et de circuler dans son bureau, ce qui n'était pas toujours facile si le patron était là. Alors, un beau matin, il avait changé sa table de place en l'avançant auprès de la porte autant qu'il était possible. Puis, comme il ne se trouvait pas encore bien et qu'il ne pouvait plus approcher sa table sans barrer le passage, il avait le lendemain matin avancé la table même sur laquelle Belloc et Marichette se faisaient vis-à-vis. C'était un changement presque insignifiant, mais qui, si petit qu'il fût, ne pouvait pas échapper à un homme comme Belloc. « C'est toi, dit-il à Marichette, qui a changé cette table ?» Mais Paulin avait prévu la question, et comme il était à peu près certain que Belloc, dès son entrée dans le bureau, s'apercevrait de ce changement, il s'était tenu sur ses gardes et il avait préparé sa réponse. « C'est moi, dit-il en intervenant, pour venir au secours de Marichette, interloquée et confuse. Quand je venais classer des pièces dans le cartonnier, je dérangeais mademoiselle. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux écarter la table, mais si vous trouvez qu'elle n'est pas bien ainsi, je peux... » Non, dit Belloc, qui ne se fâchait que quand on affirmait son droit et qui écoutait presque toujours celui qui reconnaissait ses torts ou qui s'appuyait sur une raison plus ou moins raisonnable pour chercher à se justifier ou céder devant son autorité. Déjà, Paulin avait regagné son bureau pour se remettre à son dessin et par-dessus la tête de Belloc, qui ne pouvait pas l'apercevoir, il souriait à Marichette, maintenant placée en face de lui. C'était sans l'avoir consulté qu'il avait fait cet arrangement, et pour cela, il était arrivé de bonne heure avant tout le monde, de façon à bien prendre ses mesures. Mais maintenant, ce sourire était une demande d'approbation. « M'en voulez-vous ? Me pardonnez-vous mon mensonge ? Est-ce bien ainsi ? Et, profitant de sa position, il restait toujours les yeux fixés sur elle, attendant une réponse. Cela était aussi clair, aussi précis, que s'il eût pu lui poser sa question de vive voix. Est-ce bien ainsi ? C'était en feuilletant des papiers que Victor venait de lui apporter que Marichette le voyait, et sans lever les yeux franchement, car elle avait son cousin devant elle qui pouvait l'observer. Elle n'eut même pas la pensée qu'elle pouvait ne pas répondre. À un certain moment, elle avança la main pour prendre sa plume, et alors, sa tête s'étant redressée, son regard croisa celui qui restait toujours posé sur elle. Ce ne fut qu'un éclair, mais il suffit pour illuminer le visage de Paulin. « Oui, c'est bien !» Et tout de suite, se penchant sur son papier, elle se mit au travail sans que son cousin eût rien remarqué. Pouvait-elle ne pas le remercier de cette nouvelle marque d'amitié ? Si elle n'avait pas vécu dans l'abandon et la solitude depuis son arrivée à Saint-Maclou, à qui le devait-elle ? À lui. Si elle avait rencontré un visage sympathique, n'était-ce pas le sien ? Un sourire ? Le sien. Quand son cousin lui parlait, ce n'était jamais que d'affaires. Pour le travail qu'il lui donnait, une recommandation, pour celui qu'elle lui soumettait, un grognement ou une réprimande. Quand il la regardait, c'était pour l'examiner de la tête aux pieds ou la dévisager sans rien dire et sans qu'elle pût rien deviner de ce qu'exprimait ou de ce que ressentaient ses yeux noirs qui l'anéantissaient lorsqu'elle les sentait posés sur elle. En dehors de ces quelques paroles et de ses regards, il semblait qu'elle n'existait pas pour lui. C'était à peine si au bonjour et au bonsoir qu'elle lui adressait respectueusement, il répondait par un signe de tête ou de main, et encore, le plus souvent, ne répondait-il pas du tout, en homme que ses politesses ennuient. Au repas, il ne lui disait pas un mot, et après qu'il l'avait servi, c'était fini, elle n'existait pas pour lui. Il mangeait comme il avait mangé depuis 30 ans, au plus vite, pour ne pas perdre son temps. Elles étaient si embarrassantes pour elle, ces quelques minutes passées à table, que cela lui était un soulagement quand il ne déjeunait pas ou ne dînait pas à la maison, ce qui arrivait assez souvent. Au moins, elle pouvait rêver librement, et ces jours-là, elle avait meilleur appétit. Le plus long entretien qu'ils avaient eu depuis l'essayage de la robe avait eu lieu au retour du voyage à Paris. « Je viens de m'occuper de toi, lui avait-il dit. Ton conseil de famille, composé des amis de ta mère et de Sylvain, m'a nommé ton tuteur, avec Sylvain pour subroger tuteur. Nous voilà pour jusqu'à tes 21 ans ensemble. » Et ça avait été tout. Un mot de plus cependant, un mot d'affection, même un mot de compassion, eût été doux pour elle. Cela ne rentrait donc pas dans les devoirs du tuteur, les mots d'affection ou de compassion. Comme elle n'avait personne à qui elle pût demander en quoi consistaient ses devoirs, elle avait cherché dans le code le seul livre qui fût à sa disposition, et tout de suite elle avait trouvé, car il est très bien divisé, le code. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur. Il administrera ses biens en bon père de famille. Quand il aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, il pourra porter ses plaintes devant le conseil de famille. Et s'il est autorisé par ce conseil, il pourra provoquer la réclusion du mineur. Évidemment, il n'était question dans tout cela ni d'affection ni de compassion. Ce n'était pas pour elle qu'il devait être un bon père de famille, c'était pour ses biens. Et voilà le malheur, de biens, elle n'en avait pas. Il prenait soin de sa personne, elle ne couchait pas dans la rue, elle ne mourait pas de faim, c'était tout ce qu'il lui devait. Elle n'avait pas le droit de se plaindre. Aussi ne se plaignait-elle pas. Seulement, elle en pleurait lorsqu'elle était seule et des larmes bien amères. Et quoi ? Ce serait ainsi pendant 6 années encore, et après ces 6 années, d'autres aussi sans doute. Éternellement, elle vivrait dans ce vide et dans ce froid, le cœur mort. Qu'avait-elle fait pour cela ? N'avait-elle point tendrement aimé son père et sa mère ? N'avait-elle point été une bonne fille pour eux ? Elle n'eût cependant pas beaucoup demandé à son cousin si seulement il avait voulu se laisser aimer. Qu'il n'eût point de tendresse, qu'il n'eût point de caresse pour elle, cela devait se comprendre. il avait toujours vécu seul, sans femme, sans enfants, sans famille. Et les affaires, aussi bien que le souci de la fortune et des honneurs, dont elle le voyait constamment enfiévré, suffisaient sans doute à occuper son esprit et son cœur. Mais la tendresse, mais un mot d'affection, n'eussent-elles pas été douces pour lui, les jours où il rentrait le front sombre et l'humeur farouche, comme cela se produisait si souvent? Que fût-elle devenue, dans cette maison nue, si elle n'y avait pas trouvé Paulin, si bon, si affectueux? Comment ne lui eût-elle pas souri ?